Et vous avez reconnu, c'est le générique de Un moment pour la Terre, cette émission présentée par France Nature Environnement 04. Et aujourd'hui, c'est Michel Jacob, vous êtes membre de FNE ?
Bien sûr, oui.
Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
On voulait vous parler un petit peu des municipales qui arrivent, des élections. On n'est pas candidat, mais on intervient quand même beaucoup dans tout le territoire, et donc avec les communes. Et donc pour nous, les échéances municipales sont des choses importantes. Alors cette année, elles sont importantes à double titre. Le premier titre, c'est au niveau local, puisqu'on élit chaque conseil municipal. Et puis un petit peu derrière, pas très longtemps après, chaque conseil communautaire finalement, quoi. Et puisque beaucoup de choses se passent maintenant au niveau des conseils de communauté, des conseils d'agglomération, voilà. Voilà. Et puis, bon, après, sur le terrain, pendant quelques temps, on accompagne, on critique parfois, on apporte des suggestions, etc., aux différentes communes. Et donc, c'est un peu des éléments comme ceci que je vais aborder. Et puis, il y a un deuxième niveau cette année qui est particulier pour le 04, enfin pour la région PACA, en fait, en l'occurrence, c'est la question des sénatoriales. Vous vous rappelez que les sénateurs sont élus par tranche, disons, de 6 ans, je crois, si je me souviens bien. Et en tout cas, les sénateurs de PACA, et donc dans le 04, sont tous renouvelés la prochaine fois. Alors dans le 04, nous n'avons qu'un seul sénateur, bien entendu. Mais il est temps pour lui de passer la main, soit à lui-même, soit à quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Mais disons, les élections sénatoriales, ça se passe plus tard, en septembre, octobre, hein, septembre, je crois. Mais ce sont en gros les élus municipaux qui élisent les sénateurs. Voilà. D'où l'importance d'intervenir sur cette élection qui vient donc mi-mars, hein, en deux tours, assez souvent un seul tour dans la plupart des communes, parce que nous avons énormément de petites communes chez nous, hein, et parfois deux tours. Voilà. Donc je voulais un peu intervenir sur les différentes questions avec lesquelles peut-être des listes candidates peuvent commencer à s'interroger. Si jamais dans leur programme elles n'ont pas pensé à certains points, bah, ça peut être l'occasion de rajouter ces points. Et puis ensuite, bien sûr, de les mettre en œuvre autant que possible. Alors, il y a un premier domaine sur lequel nous intervenons, c'est évidemment la protection de la nature, ça va de soi, c'est le point de départ, quoi. Pour nous, c'est évidemment fondamental, stopper la dégradation de la nature, la dégradation de ce qu'on appelle les écosystèmes, hein, renaturer, etc., quoi. Voilà. Alors par rapport à ça, bon, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser, plusieurs thèmes qui peuvent être abordés lors d'élections municipales. Il y en a un premier qui est sur ce qu'on va appeler les espaces de nature remarquables. Vous savez, tout le monde a en tête les zones Natura 2000, par exemple, etc. Bon, ça va un peu de soi. Hein. Mais il y en a bien d'autres, hein, qui sont des espaces beaucoup plus petits et qui ont finalement beaucoup d'importance, quoi. Typiquement, c'est une mare dans un coin, c'est une petite zone humide, un îlot de sénescence. Un îlot de sénescence, vous savez, c'est dans un bout de forêt, quelque part, quelques arbres qui sont vieillissants et un peu plus, mais qui accueillent une biodiversité qui est tout à fait étonnante, quoi, hein, et qu'il faut donc protéger. C'est pas parce qu'ils sont un peu vieux qu'il faut les couper, quoi, au contraire. Hein. Un espace naturel sensible. Vous savez, les espaces naturels sensibles, ils sont gérés par le conseil départemental, en fait, hein, en l'occurrence. Mais bon, ils se trouvent à un endroit particulier, dans une commune particulière, et c'est à la fois un lieu de protection et aussi un lieu un peu symbolique par certains côtés, un lieu d'apprentissage pour tout le monde, pour les citoyens, les habitants, les touristes, etc., etc., d'apprentissage de ce qu'est la nature. Alors parfois, c'est plus paysager que sur l'aspect proprement naturel des choses. Parfois, au contraire, c'est vraiment très lié à la biodiversité locale, etc., etc., quoi. Voilà. Bon, donc, et puis il y a plein d'autres zones comme ça, quoi. Toutes les communes n'en ont pas, Mais ça m'étonnerait beaucoup que dans nos quasiment 200 communes du département, il y en ait plus de 10 qui n'aient pas de zone particulière de cette nature à protéger, à mettre en évidence, etc. Ça me paraît très très important. Donc, en gros, la question qu'il faut se poser, quoi, qu'on peut se poser, c'est quel engagement réel la commune constitutionnelle sur ses espaces de caractère, comment elle s'équipe par rapport à ça. Alors, il s'agit bien sûr de la protéger de l'urbanisation, ça va de soi. Dans la plaine d'Adurance, par exemple, on a quelques soucis, c'est évident. Mais aussi du surtourisme, qui est une autre façon... Plus légère, on va dire, peut-être, mais peut-être aussi dangereuse, finalement, pour la nature. Alors, je pense aux gorges du Verdon, bien sûr, mais pas seulement. Toute la montagne, il y a des zones de montagne qui sont vraiment très, très attaquées, en quelque sorte. Alors, par rapport à ce genre de choses, on peut faire plein, évidemment, de la protection au sens strict, habituel. On peut aussi emmener les habitants et les citoyens, disons, par les citoyens, puisqu'il s'agit d'élections, c'est logique, mais disons les habitants en général, quoi, éventuellement d'ailleurs les touristes aussi, les emmener pour apprécier la nature, pour constituer ce qu'on appelle un atlas de la biodiversité communale, un ABC, qui permet de mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Voilà. Donc voilà un premier sujet, par exemple, typiquement donc, sur la nature. Un autre sur la nature aussi, j'en ai... A priori, j'en ai même déjà un tout petit peu parlé. Tout le monde a en tête, presque tout le monde a en tête ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. C'est un sigle qui a beaucoup fait parler de lui, ou qui fait beaucoup parler de lui depuis 5-6 ans, un peu plus éventuellement pour les spécialistes, mais pour le commun des mortels, c'est plus récent. ZAN, zéro artificialisation nette, ça veut dire, dans l'esprit, en 2050, donc c'est pas tout de suite, mais quand même il faut aller vers cet horizon. En 2050, mais en gros, chaque fois qu'on artificialisera dans un coin, il faudra essayer de désartificialiser ailleurs. On parle pour ça de renaturation. Bon, c'est un mot qui n'est pas parfaitement défini, mais enfin. Alors la renaturation, ça peut aller très loin, ça peut être très sommaire. Je veux dire, on peut faire beaucoup ou beaucoup moins. C'est plus, les définitions ne sont pas très très claires, et puis l'expérience manque encore beaucoup là-dessus. Mais, assez typiquement, dans une commune quelconque, dans à peu près toutes les communes, c'est ça que ça veut dire, dans à peu près toutes les communes, la question de la renaturation de certaines petites zones, en général c'est des petites zones, se posent. Alors ça va de la cour d'école, les cours d'école, chacun sait que dans le temps elles étaient toutes bitumées. Maintenant un certain nombre de communes ont fait l'effort, au contraire, de les débitumiser, je ne sais pas si le terme existe, mais enfin, de les désimperméabiliser en tout cas, permettre que l'eau circule normalement comme elle devrait faire. Bon, ça ne remplace pas, ça ne fait pas un sol vraiment naturel, mais ça répond déjà à une des critiques que l'on peut faire à l'artificialisation massive qu'on a connue depuis longtemps, maintenant depuis 50 ans, disons, pour simplifier. Bon, typiquement, voilà ce genre d'exercice qui peut se faire, mais ça peut être un espace public dans un coin, et pas forcément une cour d'école enfermée dans ses murs. Ça peut aussi être dans les espaces agricoles ou naturels, des zones qui ont été un peu abîmées, c'est un petit bout de carrière, une zone qui a été délaissée, qui a servi pour stocker des déchets, plus ou moins, pas forcément de façon officielle, etc., etc. Mais enfin, bon, la dure réalité est comme ça. Et donc, par rapport à ce genre de choses, une commune peut s'engager donc vers de la renaturation. Et pour de la bonne renaturation, il faut sûrement que les habitants participent. Sinon, on passe à côté, vraisemblablement, du résultat qu'on attendait. Alors, des jeunes dans les cours d'école, ça va de soi. Des moins jeunes ailleurs et un peu partout. Voilà deux thématiques qui vont bien avec la nature. Une troisième, c'est la question des... J'en ai déjà dit un tout petit mot aussi. C'est la question des déchets sauvages. Les déchets sauvages, vous voyez, tout le monde voit bien ce que ça veut dire. On en voit tellement et tellement partout que c'est évidemment une caricature. Par rapport à ça, bon, il y a des éléments, disons, d'ordre, on va dire, juridique. Enfin, il y a du contentieux possible, etc., etc. Bien entendu, et les maires sont responsables de ça. Ils ne sont pas responsables de faire les dépôts de déchets sauvages, c'est clair, mais ils sont responsables de lutter contre ces dépôts. Mais préalablement à ça, avant qu'une action puisse être engagée, il faut déjà qu'il soit au courant du fait qu'effectivement, à tel ou tel endroit de la commune, c'est jamais sur la place publique, hein, enfin, c'est assez rare, quoi. C'est plutôt dans un petit coin, un bout de forêt quelque part, etc. Il faut déjà qu'il soit au courant qu'il se passe quelque chose de pas sain. Alors, pour ça, ça fait longtemps maintenant, pas très loin d'une dizaine d'années quand même, hein, que FNE gère une plateforme qui s'appelle Sentinelle de la Nature. Sentinelle de la Nature, on en a déjà parlé, je pense, dans ce poste. Hein.
Oui, c'est les personnes qui lancent des alertes quand ils rencontrent des déchets, justement, sauvages.
Voilà, c'est ça. Ouais. Hein. Ou d'autres choses qui sont très positives. Hein. Ça peut être très positif, mais assez souvent, et le plus souvent, c'est effectivement des déchets sauvages. Quoi. Et donc, bon, ça se passe sur smartphone, etc. On note l'endroit, et puis on prend une ou deux photos. Et puis, bon, et puis après, ben, il faut que les communes, les maires en l'occurrence, parce que c'est leur pouvoir de police, hein, s'activent pour faire que les choses changent. Quoi. Bon. Alors, cet outil Sentinelle de Nature, il existe, il fonctionne très bien. Hein. Il est de plus en plus utilisé. Mais, bon, c'est encore mieux si les communes se rendent compte, si les municipalités plus exactement, se rendent compte que cet outil existe et qu'ils peuvent le diffuser également largement et en tirer donc des bénéfices pour le bien de la nature, bien entendu. Donc voilà une première thématique. Quoi. Just like the sea. I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
C'était la chanson Aurora the Seed. On reprend donc avec Un moment pour la Terre et Michel Jacob pour nous parler
des municipales à venir.
Des municipales, avec ce qu'on pourrait être en attente de réalisation, c'est ça.
Exactement, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, donc on a parlé un petit peu de renaturation, de protection de la nature. Et au passage, j'ai cité déjà l'implication des habitants, mais je vais revenir là-dessus de façon un peu plus précise sur comment faire, comment, jusqu'à quel point les habitants devraient être impliqués dans cet objectif de protection de la nature. C'est vraiment le deuxième axe de nos actions FNE. Alors je vais prendre quelques exemples, toujours pareil, quoi. Ben, le premier, c'est à propos des projets d'aménagement. Des projets d'aménagement qui peuvent exister sur la commune, que ce soit des projets qui sont en cours de réalisation, et ça met toujours longtemps à se réaliser, bien entendu, ou ceux à venir, ceux auxquels la commune commence à penser ou pourra penser dans les années qui viennent, quoi. La question, c'est comment faire participer les habitants, donc, à la fois sur le principe du projet, hein, c'est-à-dire globalement son acceptation de façon générale, quoi, le bien que les gens peuvent y trouver, comment ils voient les choses, mais aussi, au-delà du principe, c'est sur la conception lui-même du projet. Les uns et les autres, dans la vie de tous les jours, on a des idées, pas toujours bonnes, hein, mais on a quand même aussi des bonnes idées, et puis on a parfois des suggestions que l'on aimerait pouvoir faire, mais les lieux pour faire ces suggestions sont relativement rares. Si la commune a un projet significatif, un peu important, que ce soit un projet d'aménagement, de construction de logements, un projet industriel, pourquoi pas, ou un projet sportif, etc., etc., enfin, voilà, mais qui se traduit par un aménagement significatif, ça va prendre de toute façon 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus pour se réaliser. Durant tout ce temps, les uns et les autres ont la capacité d'apporter de bonnes idées, de bonnes suggestions. Encore faut-il que ce soit un peu organisé. Ça ne peut pas être simplement une boîte aux lettres dans laquelle on va mettre sa bonne idée et puis on verra bien comment ça se passe, quoi. Non, il faut organiser du contact avec la population, les gens qui sont un peu significativement intéressés, quoi. Voilà. Alors, la question se pose donc d'abord sur l'information des habitants à propos des projets donc publics ou privés, quoi. Alors ça peut être à l'échelle de la commune, ça peut aussi être à l'échelle de la communauté, donc la communauté de communes, la communauté d'agglomération dans notre secteur. Bon, en général, il y a un site internet qui raconte un peu les différents projets, qui les présente, etc., avec quelques photos, quelques images. Bon, c'est bien, ça a le mérite d'exister, c'est vraiment très très bien, quoi. Mais au-delà de l'émergence du projet, hein, en général, on a bien une image au tout début, quoi. Après, pour le suivi du projet, c'est parfois un peu plus sommaire, quoi, hein. Et puis surtout, par rapport à notre questionnement sur la nature, ce qui serait très intéressant, c'est qu'une commune qui donc porte un projet un peu significatif, non seulement elle informe sur l'avancement du projet, mais en parallèle, qu'elle mette les effets sur l'environnement, qu'elle décrive les effets sur l'environnement que ce projet, normalement, a des chances d'avoir. On peut se tromper, bien entendu. Mais cette question-là, cet aspect-là des choses, est rarement montré, quoi. Alors, on montre bien le projet dans sa splendeur, mais on ne montre pas forcément les effets positifs ou négatifs qu'il peut avoir sur l'environnement. Alors, troisième point, mais qui a un rapport, c'est un peu la même chose, sur les budgets communaux. Ça fait longtemps, quelques années maintenant, qu'il y a une obligation pour les grandes communes, pour les petites communes, c'est pas une obligation du tout, mais ce serait quand même souhaitable de le faire, d'avoir une présentation, non seulement des dépenses et des recettes, ben ça va de soi, comme d'habitude, bien entendu, mais aussi de leur incidence environnementale, quoi. C'est vrai que quand on se pose des questions sur la tarification de l'eau, par exemple, alors c'est plus au niveau de éventuellement d'une communauté de communes que d'une commune, ça dépend des endroits, quoi, hein, mais peu importe. Quand on se pose des questions sur la tarification de l'eau, ben ça a des incidences, à la fin de compte, sur l'environnement. C'est bien ça qu'on imagine. La question de l'eau est fondamentale dans nos territoires, et il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, on peut mettre en évidence cette question-là, quoi. On peut aussi imaginer, certaines communes le font, des budgets participatifs. Budget participatif, tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant, hein, c'est une somme, c'est pas le budget de la commune, hein, bien entendu, mais c'est une partie, une petite partie, un peu substantielle quand même, du budget de la commune, pour laquelle on organise, disons, un espèce de conseil municipal spécifique, quoi. Alors, c'est pas un conseil d'élus, c'est un conseil d'habitants. Mais il a les effets, disons, d'un conseil municipal qui décide de qu'est-ce qu'on fait avec ce budget. C'est donc participatif au niveau des habitants en question. Voilà des bonnes façons de faire pour motiver, intéresser, impliquer les habitants et donc avancer vers ces questions qui nous concernent de préservation de la nature en particulier. Ça peut aussi servir à autre chose, les budgets participatifs. Mais en tout cas, ça peut aussi servir à cette orientation-là, quoi. Une chose qui serait intéressante, qui n'existe pas vraiment de façon bien organisée, à peu près nulle part, mais peut-être que je me trompe, et ça serait sympathique que je me trompe, c'est des communes qui organisent, ou qui organiseraient, un rendez-vous, par exemple annuel, avec les associations, pour faire le bilan de ce qui se passe, entendre leurs besoins, et puis intégrer ces besoins-là à l'action municipale à venir. Assez souvent, les associations se plaignent d'être un peu dans un coin toute seule, un peu isolée, etc. Bon, organiser de tels rendez-vous, multi-associations en plus, c'est plutôt plus intéressant que simplement la discussion avec une association particulière, parce que ça met en évidence les difficultés des uns et des autres, et ça met en évidence les différences de point de vue aussi des uns et des autres, et ça c'est quand même évidemment très très utile, quoi. Voilà. Ça permet, normalement, ce genre de choses permet de mieux intégrer les associations à l'action communale. Si je prends un exemple, si par exemple une commune ou une communauté de communes en l'occurrence, plutôt, mais ça se traduit au niveau de la commune quand même, une commune décide d'avoir un plan d'action en matière de déchets de manière significative, pour développer par exemple le compostage, etc., etc. Chacun sait que ça ne peut pas se faire sans les habitants, évidemment, et ça peut encore mieux se faire s'il y a une association locale qui milite en la faveur de cette direction-là. Donc une association peut être très très utile pour renforcer l'action municipale. Il ne suffit pas de dire on va composter les déchets, mais ce serait beaucoup mieux et beaucoup plus efficace de dire on va essayer de composter beaucoup plus les déchets avec justement l'association machin hein, du coin qui va permettre de faire effectivement les choses, quoi. Voilà. Un autre point, c'est alors plus général, mais qui est assez fondamental quand même, c'est sur la transition écologique, disons, notamment climatique, qui est devant nous. Tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde a en tête les impacts potentiels que ça peut avoir sur notre vécu de tous les jours, quoi. Un avenir qui n'est pas forcément tout à fait radieux. Donc par rapport à ça, il y a une transition à préparer. Et ça, de la même façon, c'est pas forcément un conseil municipal dans sa grande sagesse qui va être le plus efficace et le plus adéquat, disons, pour réfléchir à cette transition, pour trouver des bonnes idées qui iraient bien dans le contexte communal ou dans le contexte intercommunal local. Donc par rapport à ça, pour essayer de construire une transition qui serait à la fois écologique, parce que fondamentalement elle doit être ça, mais également juste sur le plan social, etc., et bon, visant le long terme, il y a à la fois matière et nécessité de mobiliser évidemment les habitants. Alors, les questions à traiter, c'est quoi? Typiquement, des questions de déplacement, par exemple. Il est clair qu'actuellement, on utilise encore trop la voiture, parce qu'on ne sait pas bien comment faire autrement, hein, évidemment. Donc, réfléchir au covoiturage, aux aires de covoiturage, au vélo, etc., etc., c'est des choses qui font partie de cette transition écologique qui est sur le moyen long terme. Et certaines de ces choses-là sont simples à faire et donc à mettre en œuvre sur le court terme même. Par exemple, la sobriété énergétique, est-ce qu'on pense à un réseau de chaleur local? Bon, partagé entre les immeubles communaux et les habitations, pourquoi pas, hein, tout ça est tout à fait envisageable, ça existe dans bien des endroits. Bon, est-ce qu'on se pose cette question? Sur l'agroécologie au sens large, hein, ça va depuis le bio, enfin le développement des exploitations bio locales, mais jusqu'au bio local qu'on utilise à la cantine de l'école. Hein, ça va aussi vers la gestion d'irrigation sur le territoire, comment on s'y prend, comment on imagine le futur dans un contexte qui éventuellement est difficile, quoi.
Quels sont les prénoms de la France qui résonne dedans nos cœurs. De la Dordogne à la Durance, ce sont les hymnes du bonheur. Quand elle descend des collines, qu'elle tourne autour d'un vieux château, pour se faufiler en ondine, dans les ruelles d'un ruisseau. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Parfois elle devient mauvaise, elle se heurte à trop de béton. C'est de la boue, c'est de la glaise qui envahissent nos maisons. C'est la débâcle, le désordre, quand elle est lasse de son lit. Elle sort tous ses chiens pour nous mordre et fracasser notre midi. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau quand elle s'ennuie. Elle est rebelle. Et le grand coup de rein du Rhône, ce bel athlète de combat, qui court vite applaudir la faune, l'oiseau dingo dans son delta. Mais moi je sais que l'eau est l'âme, l'avenir de nos pauvres vies, que de partout on la réclame, à corps, à mort, à cri.
Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle.
On reprend l'antenne, toujours dans Un moment pour la Terre avec Michel Jacob. Dernière partie de cette émission.
Donc, ben, défendre la nature avec les habitants, avec leur participation, etc. On va en venir à un autre point, qui est la question de la sobriété. C'est un grand mot qui est de plus en plus utilisé. Hein. Il faut donc qu'elle soit juste, hein, comme j'ai dit, socialement parlant, quoi. Qu'elle soit égalitaire, qu'elle soit partagée avec tous. Alors, notamment la sobriété foncière. Alors, la sobriété foncière, c'est, ben, ça renvoie à ce que j'ai déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure, le ZAN, vous savez, zéro artificialisation nette, mais ça va plus loin que ça, c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Par exemple, sur les bâtiments publics, chaque commune a des bâtiments publics, parfois beaucoup même d'ailleurs. Les bâtiments publics, en général, ils ont été faits pour un usage particulier. L'école, elle a été faite pour enseigner aux enfants, point. Et c'est logique, normal, bien compréhensible. Mais on peut quand même se poser des questions sur leur usage. Non pas pour remettre en cause l'école, sauf s'il n'y a plus d'enfants, bon, okay, c'est une autre question. Mais disons, à côté de l'école, en dehors de l'école, pendant l'été, le soir, pendant le week-end, une école, elle peut aussi servir un peu autre chose. Un gymnase, il peut aussi servir à certaines heures ou certains moments pour des événements culturels. Potentiellement, il peut même, enfin, si vous avez des bureaux qui sont utilisés dans la journée, peut-être que le soir, ils peuvent, ou à des heures particulières, ou à des jours particuliers, ils peuvent servir pour d'autres usages. Alors, il y a par exemple quelque chose qui commence un tout petit peu à se développer, c'est les espaces de téléconsultation médicale. Alors, évidemment, il faut du matériel, etc., etc. Ça ne peut pas se faire partout, dans tous les villages, et tout ça. On est bien d'accord. Mais néanmoins, à certains endroits, ça serait quand même sans doute très utile. Et il n'y a pas forcément besoin pour ça d'aller construire un nouveau bâtiment. Assez souvent, les bâtiments existants peuvent permettre ce genre de choses. Donc, un premier point, c'est multiplier les usages, intensifier l'usage qu'on peut avoir des bâtiments communaux. Bon, et d'autres éventuellement aussi, bien entendu, mais en tout cas des bâtiments communaux, parce que les municipalités sont évidemment propriétaires et utilisatrices au premier degré des bâtiments communaux. Sur un tout autre plan, aucun rapport, mais néanmoins un rapport avec la sobriété foncière. Bon, il se trouve que dans notre département, nous avons beaucoup de résidences secondaires, hein, c'est clair, et nous avons depuis quelques années un développement de ce qu'on appelle bon, Airbnb, enfin les résidences, les locations meublées, etc., touristiques, pas vraiment touristiques d'ailleurs, ça peut être pour d'autres usages, mais peu importe, locations meublées de très court terme, etc., dans des conditions qui sont un peu délicates. Bon. Alors, on n'est pas, sauf des lieux bien particuliers dans le département, on n'est pas sur la côte, etc., etc., on n'a pas exactement la même problématique. On n'est pas dans une grande ville où les manques de logements sont absolument catastrophiques, mais quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise du logement, elle nous concerne un peu tous, un peu partout. Et par rapport à ça, bon, le fait de continuer à développer de la résidence secondaire et potentiellement du Airbnb ou autre, parce qu'il n'y a pas que cette marque-là, hein, c'est clair, pose des problèmes. Et par rapport à ça, encore une fois, il y a des évolutions réglementaires, législatives, qui sont intervenues depuis un an et quelques, qui permettent de maîtriser un petit peu ce genre de choses, quoi. Donc, une des questions assez fondamentales qui se pose par rapport à cette notion de sobriété foncière qui est quand même très très fondamentale, c'est est-ce que la municipalité à venir va mettre en œuvre, va utiliser les nouvelles réglementations existantes qui permettent du côté Airbnb, etc., au moins de limiter dans le temps un certain nombre de jours et donc de limiter l'intérêt pour des propriétaires bailleurs, des propriétaires qui habituellement louent leur logement, le logement dont ils disposent, plutôt que d'utiliser de Airbnb sur une durée un peu courte et donc avec un rapport financier qui est modeste, finalement, de revenir à de la location comme d'habitude pour loger des habitants, des vrais habitants. Sur les résidences secondaires, il y a des possibilités maintenant d'afficher des règles, disons ce qu'on appelle des servitudes en urbanisme, qui consistent à dire, dans tel secteur de la commune, vous n'avez pas le droit de construire et vous n'avez pas le droit de louer ni de vendre d'ailleurs, des logements neufs ou existants, à des fins de résidence secondaire. Maintenant, c'est autorisé par la loi, mais il faut le mettre en œuvre. Pour le moment, il y a quelques hésitations dans les communes qui s'interrogent sur la question, et puis il y a beaucoup de communes qui ne s'interrogent pas sur la question. Donc il y a un travail là-dessus qui est très significatif à faire. Encore une fois, nous avons dans le département énormément de résidences secondaires. Et bon, c'est bien sûr au détriment d'un certain nombre d'autres besoins, de logements pour les habitants, tout simplement, quoi. En dehors de ces questions de sobriété foncière, un autre point, c'est la question des pollutions, des risques naturels, etc., etc. Alors, les pollutions industrielles, on sait bien, on sait à peu près où elles se trouvent, etc. Encore qu'on découvre des choses un peu tous les jours. Et parfois, c'est bien caché. Et parfois, ça met très très longtemps à être résolu. Ça, on est bien au courant de ce genre de choses. On mène des actions depuis bon, une vingtaine d'années sur certains endroits, etc. Bon, voilà. Donc, les questions de pollution sont vraiment très 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 importantes. Si jamais il y en a dans une commune, c'est vraiment un sujet à ne pas oublier, sachant que ça, en gros, ça embête tout le monde, y compris le conseil municipal, hein, parce qu'en général, c'est très difficile de gérer ce genre de choses, quoi. Alors, je vais surtout revenir sur les risques naturels, et puis la question de la ressource en eau. Alors, j'en ai déjà dit un petit mot, mais je voulais revenir quand même sur cette question, parce que dans notre département, cette question-là est absolument, absolument fondamentale. Bon, la ressource en eau, tout le monde sait qu'elle est en train de se réduire à grande vitesse, hein, de façon tout à fait inattendu il y a quelques années, quoi, sauf par les grands spécialistes, hein, mais par tout le monde, en tout cas, personne n'imaginait ce qui est en train de se passer. Et puis, encore une fois, d'une année à l'autre, évidemment, c'est un peu différent, mais quand même. Alors, le problème pour une municipalité, il est à deux niveaux. Un premier, c'est sur la gestion, à proprement parler, de la ressource en eau, et notamment celle qui sert pour les habitants, donc la ressource en eau pour les humains, quoi, disons, directement, hein. Et la deuxième, c'est pour les milieux, c'est-à-dire en gros les questions de, d'une part d'arrosage, etc., etc., d'irrigation, hein, et puis pour les milieux naturels, où là il n'y a pas d'irrigation bien entendu, mais le besoin d'eau existe aussi. Alors sur la ressource, sur l'eau potable, disons, pour simplifier, pour être plus clair peut-être, sur l'eau potable, il y a diverses solutions envisageables. Une des solutions que l'on a préconisées depuis longtemps, et ça concerne en particulier, ça revient un petit peu à la question que j'abordais juste avant sur les résidences secondaires, mais bon, ça n'a pas de rapport complètement direct avec ça, mais c'est simplement la question que l'essentiel de l'eau potable que l'on consomme dans nos départements, eh ben, c'est plutôt en été. Parce que, encore une fois, on est beaucoup plus nombreux sur le territoire, compte tenu du tourisme de façon générale, en été. Or, c'est justement en été qu'évidemment la ressource en eau est la plus faible par construction. Bon, par rapport à ça, il y a des questions, des possibilités, par exemple, de tarification saisonnière, qui sont, encore une fois, ce n'est pas des inventions nouvelles, ça existe dans un certain nombre de communes depuis un certain temps, y compris sur la côte, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, et puis dans d'autres régions de France. Pour le moment, dans le 04, à ma connaissance, je crois que c'est la vérité. Jamais aucune commune n'a mis en place une tarification saisonnière de l'eau. C'est-à-dire, en gros, on paye plus cher l'été que l'hiver pour la même consommation, quoi. Hein? Voilà, ça c'est un point qui peut être tout à fait abordé et tout à fait traité. Il n'y a aucun problème réglementaire ni quoi que ce soit par rapport à ça. C'est juste une question de volonté politique. Pour l'irrigation, ben, il y a le problème des fameuses réserves d'eau qui peuvent se faire, qui pourraient se faire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. Un petit peu, pourquoi pas, mais dans des conditions raisonnables. Et par rapport à ça, les communes ont un rôle à jouer, disons, de vérification de la nécessité absolue et surtout du fait qu'on ne puisse pas faire autrement, c'est-à-dire puisse pas faire évoluer les cultures vers d'autres besoins que le besoin en eau qui n'est pas soluble, en fait, à terme. Voilà. Et puis je voulais intervenir sur un autre point qui est toujours en relation avec le changement climatique, hein, qui est devant nous de façon évidente, hein, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, par rapport à ça, donc, j'ai déjà parlé de sobriété foncière, je viens de parler en fait de sobriété par rapport à l'eau, hein. Il y en a d'autres encore, il y a d'autres sujets, c'est notamment la sobriété énergétique. Alors, tout le monde sait que depuis un an, deux ans, trois ans, enfin raisonnable depuis relativement peu de temps, disons, on a une croissance forte de la production sous forme d'énergie renouvelable. Bon, nous, on n'est pas contre les énergies renouvelables, a priori, à condition de faire comme il faut, bien entendu. Hein. Mais ce qu'on oublie un petit peu, et ce qui n'est pas en train de se passer, c'est une baisse de la consommation énergétique des uns et des autres. Alors tout le monde pense aux voitures, où on pourrait remplacer évidemment le pétrole par l'électricité, etc. etc. Bon. Et puis il y a un autre, c'est un sujet quand même qui est le sujet de la sobriété, qui est peu abordé. Et il y a par contre un sujet qui est passablement abordé, y compris dans 04, c'est le développement donc des énergies renouvelables, avec ce qu'on a appelé les ZAENR, les zones d'accélération des énergies renouvelables, qui ont été promu par un texte de loi qui remonte à il y a trois ans, je pense, à peu près, maintenant. Bon, et chaque commune pouvait donc, dire, dans telle zone particulière de ma commune, à tel endroit, on va pouvoir faire développer de l'énergie renouvelable. Ceci est un point plutôt positif dans l'absolu. Chaque commune dit alors, peut préciser, c'est pas obligatoire, mais elle peut préciser que ça serait sous telle ou telle forme, par exemple, du photovoltaïque sur les toitures, les immeubles, enfin les bâtiments commerciaux, sur les parkings, ou bien du photovoltaïque au sol, ou bien du photovoltaïque agricole, on parle d'agrivoltaïsme, etc. Bon. Voire des éoliennes, bon, dans 04, la question ne se pose pas beaucoup, mais bon, c'est essentiellement du photovoltaïque, bien entendu. Tout ça est bel et bon dans le principe, avec quand même quelques petits défauts, et c'est là-dessus qu'on voudrait attirer un peu l'attention pour les municipalités à venir. La première chose, c'est que faire ce genre d'exercice dans sa commune, dans sa petite commune, parce que les communes de 04 sont quand même en gros des petites communes, voire des toutes petites communes, faire chacun dans son petit coin son petit exercice de zone d'accélération des énergies renouvelables, ça peut conduire à en gros n'importe quoi, c'est-à-dire des parcs photovoltaïques, pas forcément grandiose, hein, mais d'une certaine taille, éparpillés un peu partout sur tout le territoire, au détriment évidemment des paysages, au détriment quand même aussi de la nature, du moins si c'est sur des zones qui ont un intérêt naturel, par exemple sur des zones forestières, bien entendu. Donc ça c'est un premier point, c'est le fait de faire ça au niveau communal, alors que ça devrait être fait au niveau intercommunal. Bon, la loi dit au niveau communal, on est d'accord, mais néanmoins on peut réfléchir au niveau intercommunal pour essayer de faire quelque chose qui a du sens, quoi. Je signale par exemple que sur la DLVA, donc Manosque, etc., a été conçu un plan de paysage, qui vaut ce qu'il vaut, on peut le critiquer bien entendu, mais quand même cet effort de réflexion sur les paysages a quand même été mené. Bon, nous ne sommes pas totalement étrangers à l'affaire, FNE en l'occurrence, mais enfin, on n'a pas beaucoup participé finalement à la réalisation de ce plan, mais c'est quand même un peu nous qui étions à l'origine, si je me souviens bien. Bon, ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est encore une fois, les énergies renouvelables, à partir du moment où ce n'est pas simplement sur une toiture, etc., ce qui pose a priori pas de problème, sauf si c'est juste en face du monument historique qui va bien, etc., etc., bien entendu. Hein. Mais disons, les énergies renouvelables posent quand même des problèmes d'acceptation par les habitants qui sont importantes. Ces questions-là sont importantes. Et donc, associer les habitants dès le début et pendant tout le long de la conception du projet est une chose qui est absolument indispensable. Les opérateurs ne le font pas toujours. Le conseil municipal, quand il est concerné, enfin la municipalité, quand elle est concernée par un projet de cette nature, devrait à ce moment-là l'organiser avec, évidemment, la participation des opérateurs pour arriver à quelque chose qui soit une réponse un peu raisonnable et sensée. Donc voilà, j'ai balayé toute une série de points divers. Il y en a plein d'autres possibles, bien entendu. Hein. Et tout ça pour défendre la nature, qui en a bien besoin actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci, donc on retrouvera cette émission sur notre site. Merci, au revoir.